Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, gros plan sur la société saoudienne. Les femmes et les jeunes peuvent-ils vraiment changer l'Arabie saoudite? Nous allons en parler avec vous, Clarence Rodriguez, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
On est ravis que vous soyez de passage à Paris. Vous êtes correspondante, entre autres, pour RFI. Installée depuis 11 ans dans ce pays, après un recueil et un documentaire de portraits de femmes engagées, vous préparez maintenant un livre sur la jeunesse saoudienne. Vous allez aussi nous en parler, bien sûr. Plus de la moitié de la population a moins de 25 ans dans ce pays. Alors bien sûr, il nous faudra évoquer l'après-pétrole, le chômage, les protestations sur les réseaux sociaux, les demandes aussi de plus en plus pressantes d'autoriser les femmes à conduire et à ne plus dépendre d'un tuteur pour la moindre décision concernant leur vie, mais aussi de la crainte finalement de cette société saoudienne de perdre ses valeurs propres à une culture bédouine déjà ensevelie en partie sous les tours et les autoroutes. Autant de tensions qui traversent finalement la société saoudienne, y compris d'ailleurs au sein même des familles. Et bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions, vous qui nous écoutez, les voisins et les voisines, à Clarence Rodriguez en direct au 33 1 84 22 71 71 et également sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Clarence Rodriguez, le pèlerinage à la Mecque s'est achevé il y a quelques jours. Plus de 2 millions de personnes, ça s'est plutôt bien déroulé dans un climat évidemment de sécurité. Tout le monde repense à ce qui s'est passé l'année précédente. Un mouvement de foule avait provoqué la mort de plus de 2400 personnes. Donc, question d'un internaute posté sur notre fil Facebook, Fataou, qui est dans le nord-ouest du Bénin, qui nous dit, voilà, l'Arabie Saoudite est un des pays dont l'économie est fortement tributaire du commerce du pétrole, mais c'est aussi un pays où s'organisent tous les dans le pèlerinage musulman. À chaque édition, des millions de pèlerins y vont. Et donc, question de Fataou qui poursuit au Bénin. Il nous donne le coût financier d'un participant qui est estimé à environ plus de 2 millions de francs CFA. C'est une forte somme. C'est la même chose pour d'autres pays. Alors, quelle est la part du rituel finalement dans l'économie saoudienne après le pétrole?
Oui, cet internaute a raison. Il faut vraiment avoir les moyens donc, de participer au Hajj, hein, le grand pèlerinage, ou alors la Omra, puisque la Omra, c'est également le petit pèlerinage qui s'effectue donc, tout au long de l'année. Et c'est vrai qu'il faut avoir, donc, comme je le disais, les moyens financiers. Et effectivement, de plus en plus, on se demande quelle est effectivement la part du religieux.
Alors, bien évidemment. Parce que c'est de plus en plus cher, hein, les hôtels sont de plus en plus
absolument
luxueux.
Absolument. 4000 euros à peu près, vous voyez, donc il annonçait effectivement ce tarif, mais il faut à peu près dépenser 4000 euros le logement, la nourriture, les souvenirs. Alors il faut savoir que quand même, ce tourisme religieux est devenu le deuxième revenu après le revenu pétrolier, donc en Arabie Saoudite. C'est pas rien. Il y a à peu près 9 millions donc, de pèlerins qui participent chaque année donc, au pèlerinage. Donc je dis bien le grand pèlerinage, mais également la Omra. Ça correspond à peu près à 40 milliards de dollars. Et alors, ce qui est quand même important, c'est que chaque année, il y a des investissements de la part des autorités saoudiennes. C'est-à-dire qu'en 2020, il faut savoir qu'il y aura à peu près... Enfin, la Mecque accueillera environ 20 millions donc, de visiteurs. Vous vous rendez compte, c'est quand même énorme. On est actuellement à 9. On va passer à 20 millions de visiteurs. Et pour une recette, tenez-vous bien, de 90 milliards de dollars. Ça va rapporter... Mais j'ai presque envie de dire que ça va supplanter, je veux dire, le revenu pétrolier. Aujourd'hui, on en est là. Quoi.
Alors justement, l'après-pétrole, on va en parler. Il y a une autre question de Fataou, avant qu'on parle de l'après-pétrole et des jeunes. En tant que journaliste, quel est votre avis au sujet de la loi interdisant aux femmes saoudiennes de se mettre au volant? Et bien sûr, on va parler de la condition des femmes en général.
Alors moi, j'ai presque envie de dire que je n'ai pas mon mot à dire par rapport à ça. Mais c'est vrai que je subis de la même façon que les saoudiennes. C'est-à-dire que je ne conduis pas. J'ai beau être française occidentale, ben je suis assujettie, j'ai envie de dire, aux mêmes règles. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est... Franchement, c'est handicapant. On est obligé, et je suis également obligée, d'être inféodée donc à un homme, un chauffeur. Je suis obligée de faire appel, si vous voulez, à une compagnie de chauffeurs pour pouvoir me déplacer, ce qui est quand même très, très compliqué, parce que ce n'est pas spontané, en fait.
Alors, voilà. Il y a évidemment des implications économiques hein, dans ce débat. Ce n'est pas seulement un débat politique sur le droit pour les femmes de conduire, parce que ça coûte cher. Mmh. Oui. Il y a quelques jours, une pétition a été signée sur Internet par des milliers de Saoudiennes et de Saoudiens, hein, il faut le préciser.
Important que vous disiez.
Pas seulement
que...
des femmes.
Hein, exactement, c'est très important.
Qui demandent l'abolition du système de tutelle masculin sur les femmes. Mais il y a bien sûr, en gros, dans le package, aussi le droit de conduire.
Alors, je vais vous dire, ça c'est pour les auditeurs, parce que souvent on dit... Le droit de conduire est la première revendication donc, des Saoudiennes. Eh bien non. La première chose que demandent les femmes saoudiennes, c'est l'abolition du tutorat. Vous imaginez, ce sont des femmes qui sont adultes, ce sont des femmes qui sont directrices de marketing, ce sont des femmes qui travaillent pour la plupart.
Qui ont le droit d'être chef d'entreprise.
Oui, absolument. Mmh. Ça, on ne le sait pas non plus. Voyez, enfin, c'est ce que j'ai expliqué dans mon documentaire, justement, Arabie Saoudite, Parole de femmes. Ce sont des femmes responsables et qui sont considérées comme des mineures, vous imaginez. Et ce qui est aussi important, c'est que quand une femme devient veuve, eh bien c'est le fils qui devient le tuteur, qui est juridiquement responsable. Parce que, en tant que femme, nous n'avons, je dis bien nous, hein, y compris moi, aucune existence légale.
C'est ça. Donc le tuteur est un père, un mari, un frère.
Un oncle.
Et à qui la femme doit demander l'autorisation, pas seulement de travailler, mais de se faire soigner aussi.
Exact.
On l'oublie beaucoup. Hein.
Absolument.
C'est pas seulement
fois.
Voyager pour aller faire du shopping parce qu'elles sont très riches, c'est se faire soigner, se marier. Également.
Oui, mais là, justement, vous venez de dire quelque chose, parce qu'elles ont les moyens, etc. Bon, elles n'ont pas toutes les moyens, ces Saoudiennes. Ces Saoudiennes, si vous voulez, elles n'ont pas... chaque fois, ça fait partie aussi des clichés qu'on aime bien cultiver quand on vit à l'étranger. Non, vous avez des femmes qui veulent tout simplement respirer, exister, si vous voulez. Et effectivement, d'être inféodées à un tuteur, ben, elles en ont ras-le-bol, excusez-moi l'expression. C'est, je veux dire, et puis elles sont infantilisées. Je veux dire, ce sont des femmes qui ont parfois 30, 40, 50, 60 ans et qui demandent tout simplement ben, de vivre, mais pas, je veux dire, être... dépendre d'un homme.
Alors, vous le disiez, la première revendication des femmes, mais pas seulement des femmes, aussi de certains Saoudiens, c'est de pouvoir de se libérer du tutorat masculin. Plus que la conduite, c'est tout l'objet de la pétition qui a été signée donc, par près de 15 000 personnes.
Absolument, oui, hein, qui a été déposée sur le bureau du roi.
Cette pétition, donc, qui est remontée jusqu'au plus haut niveau, jusqu'au roi, est-ce que cette pétition, c'est finalement un peu la continuité de l'ouverture qui a été permise par pour la première fois, des femmes qui ont été autorisées à voter lors d'élections municipales et à se présenter lors de ces élections, qui certes sont des élections sans grand enjeu politique, hein, puisqu'on est dans une monarchie. Mais tout de même, ça a créé aussi la surprise au mois de décembre dernier.
Vous avez tout à fait raison de le mentionner. Ça fait partie de cette révolution qui est en marche depuis quelques années, et notamment sous le règne du roi Abdallah. Le roi Abdallah, donc ces 10 dernières années, a permis quand même aux femmes de vendre, ça paraît anecdotique, mais vendre de la lingerie, d'être donc vendeuse, d'être caissière, de travailler, de prendre un peu plus de place dans la société active, ça on ne le sait pas non plus. Et effectivement, c'est la continuité, parce qu'aujourd'hui, les femmes ont besoin de travailler, parce que économiquement, un salaire ne suffit plus dans un foyer. Un homme qui ramène à la maison un salaire, ça ne suffit plus. Et puis, je vais vous dire franchement, on parlait de la conduite. C'est onéreux de payer un chauffeur, d'avoir affaire ou de faire appel à un chauffeur. Je veux dire, c'est onéreux et donc
notamment
ça ne suffit
dans
plus.
Dans une famille où il y a plusieurs femmes.
Mais complètement. Alors, de moins en moins, les familles sont quand même, vous voyez, il y a de moins en moins d'hommes qui entretiennent quatre femmes.
Hein. Alors, je ne faisais pas seulement allusion à la polygamie qui est certes autorisée jusqu'à quatre femmes, mais il suffit d'une épouse avec trois filles étudiantes, par exemple, pour que cela devienne un problème
économique. C'est un budget. Mais c'est un budget. Donc tout est, vous voyez, et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le moment, parce que l'Arabie Saoudite traverse quand même une période de crise, de mutation économique, et j'ai presque envie de dire que ça va entraîner une mutation sociale inéluctable, et ça en fait partie. Vous voyez, donc effectivement, donc ces femmes courent après donc l'abolition du tutorat, mais elles courent après, j'ai envie de dire, une légitimité dans cette société active.
Une vingtaine de femmes, c'est ça, élues à ces élections municipales.
Oui, c'est ça, 22 précisément.
C'est,
ouais.
C'est presque rien par
oui,
rapport à...
Oui, mais c'est symptomatique. Parce qu'avant, ces femmes n'avaient pas le droit de, ni de voter, ni d'être éligibles.
Ça a été une surprise en plus. Hein,
alors, ça a été une surprise, mais je vais vous dire franchement. Le roi Abdallah avait pris la décision le 25 septembre 2011. 5 ans après, les femmes votent et sont éligibles. En France, vous vous souvenez, ça a mis presque 100 ans avant que les femmes mettent un bulletin dans l'urne.
Vous avez le même discours que le gouvernement saoudien. Tous les ministres disent, regardez en Occident combien de temps ça a pris.
Non, surtout pas. Alors, je vais vous dire une chose et je vous le dis vraiment ouvertement. Je n'appartiens à aucune... Non, mais je n'appartiens ni à l'État saoudien, encore moins à l'État français.
C'est vrai.
Je suis libre de mes paroles.
Vous faites bien de repréciser les dates. Ceci dit, alors aujourd'hui, le débat se cristallise vraiment autour de ces deux revendications. Autorisation à conduire, fin du tutorat masculin, c'est ça aujourd'hui le débat pour les droits des femmes, pour le combat.
C'est le combat. Le combat, c'est vraiment l'abolition, j'ai envie de dire, prioritairement, c'est l'abolition donc, du tutorat. Et alors, ce qui est intéressant, on l'a un petit peu souligné tout à l'heure, mais c'est le soutien des hommes. Vous savez, il y a eu ces dernières années, en 2011, 2013 et 2014, vous avez eu ces mouvements pour le droit de conduire, c'était Women to Drive.
J'allais vous demander, que devient ce mouvement ? Vous aviez participé en filmant tout simplement hein, l'une de ces femmes qui avait bravé l'interdiction et avait décidé de conduire. D'ailleurs, elle s'était retrouvée au poste de police.
Exactement, hein. Elle avait passé 9 jours donc, à la prison, donc à Al-Khobar. Et alors, c'était sous l'été noir, parce que bien évidemment, on ne peut pas tout dire non plus en Arabie Saoudite. Donc ces femmes-là qui revendiquaient via les réseaux sociaux... Le droit de conduire n'était pas forcément soutenu par les hommes. Ils étaient, en fait, ils étaient très discrets. Or, aujourd'hui, avec le mouvement de ces femmes qui demandent, donc, je suis en train de chercher ces hashtags Stop Enslaving Saudi Women. C'est le mouvement qui est quand même qui permet à ces femmes justement de revendiquer le droit au tutorat. Et donc, je reviens à ces hommes. Là, les hommes sont beaucoup plus visibles.
C'est la nouveauté.
C'est la nouveauté. Et c'est important, vous savez pourquoi ? Parce que ces femmes, elles sont forcément inféodées aux hommes et que pour pouvoir s'exprimer, eh bien, elles ont besoin du concours et de l'appui et du soutien des hommes. Toutes les femmes, moi, que je rencontre ou même quand j'ai rencontré que ce pour le livre ou quoi que ce soit, ce sont des femmes qui ont eu l'autorisation de leur mari. Ce sont des hommes qui aspirent un peu plus, si vous voulez, d'ouverture pour leurs femmes. Pourquoi ? Parce que ce sont des hommes, ils sont pères. Donc père, ils sont mari ou frère. Donc ils se sentent vraiment impliqués par ce mouvement donc, et par cette revendication qui est primordiale pour ces femmes.
Vous pensez que l'autorisation de conduire pour les femmes pourrait arriver là très prochainement, dans les années à venir ou pas ?
Alors sur un plan personnel, je vais vous dire, je suis assez optimiste. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, on vit... en Arabie Saoudite, un changement donc, économique. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui peut donc, s'offrir les services d'un chauffeur. On demande aux femmes de travailler maintenant. Il faut que les femmes intègrent la vie active. Par conséquent, il faut qu'elles puissent être mobiles. C'est-à-dire que ne pas être obligées de demander au mari, au père, au fils ou autre de les conduire voyez, sur le lieu de travail. Donc c'est en train de se préparer.
Et moi, j'ai entendu dire... Sous la pression de l'économie, finalement, de la modernisation de l'économie.
Absolument. Bah, vous savez, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais vous avez le vice-prince héritier Mohamed Bin Salman qui a lancé et qui a présenté au mois d'avril dernier le plan Vision 2030 dans lequel, c'est la diversification de l'économie qui prépare l'après-pétrole. Et les femmes, on en parle. Donc oui, c'est très bien qu'on intègre les femmes, mais il faut leur donner un peu plus de légitimité légale.
Les femmes, ceci dit, ont obtenu aussi déjà au printemps dernier le droit de posséder une copie de leur contrat de mariage. Ça a l'air de rien, mais c'est un détail qui a son importance. Il n'y a toujours pas d'âge minimum légal pour être mariée. Il y a encore beaucoup de filles qui tombent enceintes hors mariage et qui se retrouvent incarcérées. Nous parlons des femmes et nous parlons de cette jeunesse aussi saoudienne. Plus de la moitié de la population a moins de 25 ans en Arabie Saoudite. واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم انت معلم واحنا منك نتعلم
نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم
واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم
وما تسمع اللي يخدعك انت معلم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم
hey!
نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم
Clarence Rodriguez, nous évoquons l'Arabie Saoudite, un pays dans lequel vous vivez depuis 11 ans. Vous êtes journaliste, correspondante pour différents médias, dont RFI. Nous parlons bien sûr des revendications principales pour les droits des femmes aujourd'hui, le droit de conduire, mais surtout de se libérer du tutorat masculin qui les oblige à demander de très nombreuses autorisations dans leur vie quotidienne, notamment pour travailler, pour se marier, pour avoir tout simplement des papiers d'identité, un passeport. Alors il y a beaucoup de voix qui disent depuis plusieurs années la société n'est pas prête. Question, c'est qui la société dans un pays où plus de la moitié du pays a moins de 25 ans. Quand un ministre saoudien déclare aussi, je crois que c'était en mai dernier, il me semble que c'est le ministre du Travail, nos femmes sont bien qualifiées, prêtes à travailler, mais l'environnement du monde du travail ne leur est pas favorable. Comment il faut décoder toutes ces déclarations finalement
mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est la majorité de la population est conservatrice. Et lorsque l'on parle des Saoudiennes, des femmes, il faut faire très attention. Ce n'est pas une majorité, c'est une minorité. Alors, moi, j'ai tendance à toujours regarder le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Donc, il est évident que ce sont ces femmes qui vont tirer les autres vers le haut. Et c'est vrai que cette société profondément conservatrice ne souhaite pas que la société change.
Donc il y a cette ambiguïté. Parce qu'il n'y a pas intérêt aussi ou pas ? Il y a des intérêts contraires ?
Vous savez, il faut remonter à l'histoire, c'est-à-dire en 1744, il y a eu ce pacte entre Al-Wahhab et puis donc la famille Saoud. Et donc pour les uns c'était donc préserver donc le côté religieux, les autres c'était l'aspect politique, les Saoud. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vit dans une société de contradictions. Ça tiraille chaque fois, si vous voulez, entre les conservateurs et les autorités. Vous savez, pour discuter avec certains des autorités, elles souhaiteraient aller beaucoup plus vite. Voyez, parce que c'est quand même l'Arabie Saoudite est quand même impliquée dans le G20 économiquement, etc. Sauf que si vous voulez, c'est sur le plan des mentalités que ça avance pas. Donc c'est ça qui, ce sont ces freins là, c'est sur un plan religieux. Donc c'est ça qui empêche la société.
Il y a effectivement des voix puissantes qui s'élèvent dans les médias. On entend la princesse Adela, la fille conseillère du défunt roi Abdallah. On entend évidemment le prince Mohamed Salman, qui est à la fois qui est très puissant, qui est ministre de la Défense, qui est deuxième vice-ministre, qui préside aussi le Conseil économique et de développement, qui est l'organe qui supervise Saudi Aramco, donc la première compagnie productrice de pétrole au monde. Ces personnes-là, on les entend beaucoup. Est-ce qu'il y a pas aussi une forme de discours de communication pour dire, mais bien sûr, on est progressiste, mais vous savez, c'est très compliqué à l'intérieur du pays de faire changer les mentalités.
C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est parce que justement,
les autorités... Mais c'est du discours ou c'est de la réalité, en fait ?
Alors, il y a, si vous voulez, j'ai presque envie de dire, il y a du discours, il y a également de la réalité, mais il y a également de la communication. Pourquoi il y a de la communication aujourd'hui ? C'est parce qu'en Arabie Saoudite, je veux dire que, bon, elle a besoin de travailler son image. C'est en image. Parce qu'il y a des choses. Alors, c'est vrai que c'est une société qui a plusieurs facettes, en fait. On retient toujours les facettes les plus négatives. Sauf qu'il y a quand même, comme en France d'ailleurs, ou dans d'autres pays, il y a des choses qui se font qui sont positives. Et je suis désolée, on ne peut pas dire que tout est négatif. Alors, pour le coup, les autorités, comme le jeune Mohamed bin Salman, ils courent après justement, vouloir un petit peu persuader l'auditoire et le monde entier. Mais le problème, il y a un tel passif.
On va y revenir. Oui. On se quitte juste quelques minutes pour le flash et on y revient. On va justement parler des jeunes, mais pas seulement de.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines. Gros plan sur la société saoudienne avec vous, Clarence Rodriguez. Vous êtes de passage à Paris, vous êtes correspondante pour différents médias, dont RFI, Ariad. On parle des femmes, on parle des jeunes. Vous avez beaucoup travaillé sur les femmes. Vous avez d'ailleurs édité un ouvrage et réalisé un documentaire sur des portraits de femmes, évidemment des femmes engagées. Et puis maintenant, vous travaillez sur les jeunes. Alors, les femmes et les jeunes, à eux deux, ça fait beaucoup de monde. Peuvent-ils faire évoluer ce royaume de 21 millions d'habitants qui emploie en plus 6,5 millions d'étrangers d'ailleurs? Plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. On parlait des freins, des conservatismes. Vous disiez d'ailleurs juste avant le flash que parmi les freins et les conservatismes de la société, il y avait également beaucoup de femmes, bien évidemment. En tout cas, aujourd'hui, on a cette société qui est extrêmement jeune, qui ronge son frein, qui est globalement très au chômage, pas tellement plus que dans certains pays d'Europe, en tout cas. Mais on a cette idée reçue. Nos internautes nous posent la question. Est-ce qu'il y a de la pauvreté en Arabie Saoudite, par exemple? On a beaucoup d'idées reçues sur l'Arabie Saoudite.
Avant de parler justement de cette misère, oui, elle existe, mais on va y revenir. Moi, je voudrais revenir sur cette jeunesse, justement.
Trois fois plus au chômage, grosso modo, que la moyenne nationale, autour de 30%
de
chômage.
Oui, parce que pas formé, c'est un problème. C'est en ce moment, justement, donc, les autorités sont en train de mettre en place, donc, de s'occuper, en tous les cas, de cette jeunesse. Et vous l'avez dit, donc il y a quasiment 70% de la population qui a moins de 25 ans, c'est quand même énorme. Mais il faut savoir aussi que cette jeunesse participe à l'avenir de ce pays. Pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup de jeunes qui étudient actuellement grâce à la bourse Abdallah, étudie donc à l'étranger. Donc,
notamment beaucoup de Saoudiennes. Cette bourse mise en place par le roi Abdallah a envoyé plusieurs milliers de Saoudiennes étudier à l'étranger.
Il y a à peu près en ce moment entre 200 et 250 000 Saoudiens et Saoudiennes à l'étranger. Donc ce sont des jeunes qui reviennent avec une mentalité moderne, qui reviennent donc avec ce qu'ils ont absorbé dans les pays, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, etc. Donc, ils reviennent avec une formation. Et cette jeunesse constitue l'avenir de ce pays. Et c'est la raison pour laquelle l'État saoudien est en train de s'en préoccuper. Et d'ailleurs, au mois de fin novembre, il y a un gros forum qui est organisé en Arabie Saoudite, justement, pour permettre à ces jeunes d'être mieux formés qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est une jeunesse qui, en ce moment, en pleine mutation aussi. Je le vois dans la rue, par exemple. Vous savez, de moins en moins de jeunes, quand vous baladez à Riyad, vous avez de moins en moins de jeunes qui portent le tob. Vous savez, le tob, c'est la tenue, c'est cette espèce de tunique blanche que portent les hommes, absolument, avec le kéfié. Eh bien, les jeunes, cette jeunesse saoudienne, se met un peu plus, si vous voulez, s'occidentalise. Parce que cette jeunesse est très équipée sur le plan Internet, réseaux sociaux, parce que même s'il y a des freins au sein même de la société, il n'empêche que les réseaux sociaux Internet constituent une fenêtre, une plateforme pour ces jeunes.
Alors justement, la question d'un internaute sur notre fil Facebook, Minkram, qui nous écrit de Douala au Cameroun, quel est l'impact des réseaux sociaux sur la société saoudienne ?
Énorme. Énorme, parce que si vous voulez, en Arabie Saoudite, c'est un pays qui a un taux de pénétration Internet qui est très élevé, de l'ordre de 60%. C'est énorme. Vous avez 93% des Saoudiens qui fréquentent les réseaux sociaux. Et vous avez entre 60 et 63% de Saoudiens qui se considèrent engagés. C'est-à-dire que...
Ça veut dire quoi, engagés?
C'est-à-dire qu'ils revendiquent. Pourquoi? Parce qu'en Arabie Saoudite, les manifestations sont proscrites. On ne descend pas dans la rue, c'est interdit. Donc les réseaux sociaux, d'ailleurs, les réseaux sociaux sont moins contrôlables, j'ai envie de dire, par les autorités saoudiennes que, par exemple, la presse dite traditionnelle. Donc, c'est un refuge pour les jeunes, également les libéraux, voyez. Donc les réseaux sociaux jouent un rôle prépondérant pour permettre à ces jeunes saoudiens ou ceux qui, en tous les cas, aspirent à des réformes, de s'exprimer.
Alors derrière le plus célèbre d'entre eux, le blogueur Raif Badawi, militant pour la liberté d'expression, qui a été condamné à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet pour insulte à l'islam, une peine qui a été confirmée par la Cour suprême d'Arabie Saoudite, malgré les pressions internationales, des ONG, etc. Son épouse est exilée au Canada. derrière le plus emblématique de ces internautes, derrière, c'est quoi finalement la masse de cette jeunesse silencieuse et ultra connectée? Qu'est-ce qu'on lit sur les forums, sur les réseaux sociaux? Quels sont les positionnements entre eux, conservateurs et progressistes?
Écoutez, il n'y a pas une grande liberté non plus. Je veux dire qu'un jeune comme Raïf Badawi, par exemple, il animait donc un forum pour permettre donc à des jeunes saoudiens, voire même saoudiennes, de s'exprimer. Et on l'a accusé donc d'avoir attaquer, si vous voulez, l'islam. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail.
Sauf non, mais que... sur la masse de derrière le plus célèbre, comment se positionne
En fait, il y a quand même, ce sont des jeunes qui sont timorés, parce qu'il y a une loi, si vous voulez, qui interdit toute information je cite, menace la stabilité du royaume ou insulte l'islam. Ça veut dire que, si vous voulez, la moindre réflexion sur la société saoudienne, sur les autorités, eh bien, vous pouvez finir donc en prison. Ça a été d'ailleurs le cas aussi de ces trois réalisateurs de ce film La pauvreté en Arabie Saoudite, c'était en 2011. Donc dans ce court-métrage, ils mettaient en exergue la misère en Arabie Saoudite parce qu'effectivement, c'est mal vu. C'est mal vu. Ils ont écopé 15 jours donc, de prison. Donc vous voyez, donc, on ne peut
pas... La pauvreté, c'est un sujet qui est extrêmement sensible à l'heure actuelle, justement parce que le chômage augmente, qu'il y a toute cette réflexion sur l'après pétrole, pour répondre à la question de notre internaute qui demandait s'il y avait de la pauvreté en Arabie Saoudite.
On ne le sait pas, mais parce que bien évidemment, les autorités essaient quand même de cacher la misère. C'est pas très, je veux dire, flatteur de dire on est le premier pays exportateur de pétrole au monde et on a quand même de la misère. Mais donc, jusqu'à présent, la misère était cachée, sauf qu'elle est de plus en plus visible parce que je veux dire que quand on vit en Arabie, je veux dire, vous voyez très bien les femmes, des mendiants dans les carrefours, aux portes des mosquées, donc ça c'est quand même une réalité. Vous avez également en Arabie et notamment à Riyad des quartiers ce sont des bidonvilles carrément et il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. D'ailleurs le roi Abdallah était allé rendre visite donc à cette population invisible, j'ai envie de dire. Et à partir de là, il avait voulu donc mettre en place une stratégie pour aider. Sauf que, si vous voulez, 10 ans après, c'est quand même un échec. Et donc, y a de plus en plus de pauvres parce que, encore une fois, la conjoncture est quand même... Il y a une crise en ce moment.
Quelles sont les solutions envisagées justement pour freiner le chômage des jeunes qui augmente, pour freiner l'augmentation aussi de la pauvreté, pour cet après-pétrole, cette vision 2030, comme c'est appelé par les autorités? Quelles sont les solutions envisagées?
Bien justement, vous dites le plan Vision 2030 participe justement à cette modernisation, à cette diversification aussi de l'économie. Il prépare l'après-pétrole. Jusqu'à présent, si vous voulez, quasiment 90% du revenu économique provenait donc des ressources de la manne pétrolière, qui du reste était mal dispatchée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a cette misère, pour en reparler. Donc, si vous voulez, les autorités sont en train de préparer, que ce soit les jeunes, que ce soit cette économie, pour qu'il y ait une stabilité. Mais ça passe forcément par des coupes, un climat d'austérité. Vous savez, jusqu'à présent, il y avait
des populations.
Oui, depuis l'année dernière, décembre, depuis 2011, vous savez, à l'époque du roi Abdallah, on avait permis un double salaire pour les fonctionnaires. Enfin, je veux dire, c'était une société, pour ne pas rentrer trop dans le détail, qui était sous perfusion. C'était de l'État. Eh bien, ça, je veux dire que le roi Salman, coupe.
Aujourd'hui, on a toujours plus de la moitié des Saoudiens qui travaillent dans le service public et pas dans des entreprises privées.
Oui, de plus en plus. Oui, absolument. Oui.
Donc, ça en dit long aussi sur la nécessité de redynamiser l'économie.
Et c'est ça, donc vraiment de trouver un équilibre, si vous voulez, dans cette population. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, y compris les fonctionnaires, sont touchés aujourd'hui. Vous savez, mardi dernier, le roi Salman a annoncé donc un coup de sabre donc des salaires des fonctionnaires, 20% également des ministres. Donc, c'est un exemple. voyez, c'est important. Donc on n'est plus du tout dans, le, encore une fois, l'état-providence. On l'est de moins en moins, en tous les cas.
Alors vous préparez actuellement un ouvrage sur la jeunesse en Arabie Saoudite. Là, pour le coup, il va falloir rencontrer des garçons et pas seulement des filles. Il faut dire que la loi vous interdit de rencontrer des hommes dans un lieu public.
C'est la loi de non-mixité, oui, effectivement.
C'est ça. Comment faites-vous pour travailler, pour rencontrer des jeunes, pour essayer de comprendre surtout quels sont leurs passe-temps, que font-ils, à part être derrière un écran et sur les réseaux sociaux?
Non, mais justement, c'est depuis 11 ans donc, que je vis là-bas, donc ça m'a permis donc, d'obtenir et de cultiver un réseau donc par le biais de jeunes, de fils, de filles, d'amis, etc. Donc ça me permet donc, de rencontrer donc, ces jeunes. Alors forcément, je ne les rencontre pas au bistrot, hein, d'abord, parce qu'il
faut aller dans des maisons privées.
Voilà, c'est en privé, ça peut se faire également dans le quartier diplomatique, ça se fait dans des endroits où justement, parce que je pourrais être, si je suis, comment dirais-je, prise en flagrant délit donc, de non-mixité, c'est-à-dire je me retrouve avec un homme ou un jeune homme qui n'est pas ni mon frère, ni mon fils, ni mon mari, voilà, je peux être expulsée tout simplement. Donc voilà. Mais je vais vous dire franchement, ces jeunes, je les rencontre en ce moment, c'est vraiment, ils sont passionnants. Parce que
quel titre, justement?
Écoutez, ils me font des révélations, des confidences. Alors, je ne vais pas tout déflorer parce que ce sera dans le livre. Mais ce que je peux vous dire, c'est une jeunesse débridée. Mais on ne peut même pas soupçonner. Moi, ils m'ont fait des confidences. Il y a des détails un peu croustillants. Moi, j'ai découvert, hein, j'avais l'impression d'être un lapin de 6 semaines, hein, franchement. Parce que je me suis dit, oh là là, non mais la jeunesse, etc. Mais pas du tout. Cette jeunesse est organisée, mais... moi, j'ai découvert comment ils s'organisaient le week-end, par exemple, au moment des loisirs, parce que c'est quand même le week-end, c'est le jeudi soir, puisque c'est vendredi et samedi, le week-end, comment ils se retrouvent entre eux dans les maisons, comment ils font pour fréquenter les filles aussi, parce que c'est possible. Donc voilà, mais vous savez, ça se sait quelque part, mais on met le voile dessus. Parce que parfois, vaut mieux, si vous voulez, ça revient aux oreilles de religieux, etc. Ça peut poser un problème. Mais tout le monde vit comme ça. Donc, encore une fois, c'est dans une société un peu de contradiction, un peu schizophrène, tout simplement. Parce que ce sont des gamins, malgré toutes ces contraintes, ils parviennent quand même à respirer à leur façon. Pas à la nôtre, encore une fois, parce que j'ai envie de dire que nous autres occidentaux, ou même moi occidentale, je n'ai pas de leçons à leur donner, et qu'ils vivent, même les femmes. En fait, que ce soit les jeunes ou les femmes, ce sont des sociétés dans la société. Et c'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est pour ça qu'elle me dit... Mais moi,
c'est leur espace de liberté.
Oui, complètement. C'est comme ça, ce sont des bouffées d'oxygène. Et en tous les cas, je parle de ces jeunes et de ces femmes qui veulent avancer et donner une autre couleur.
Repousser les lignes, finalement.
C'est un peu ça, voilà, exactement. Et de pouvoir s'exprimer en tant que femme et en tant que jeune.
Quelle est la réalité chez ces jeunes de la tentation djihadiste? Alors, évidemment, j'imagine qu'il n'y a pas une comptabilité publique de cette tentation-là. On parle aussi beaucoup de jeunes qui, un peu désœuvrés, qui cherchent à repousser les lignes avec des rodéos, notamment en voiture, et qui se confondent parfois avec certains qui veulent partir faire le djihad.
Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, ils vivent dans une frustration quand même, tous ces jeunes. Et puis, vous avez des jeunes qui se réfugient dans la religion. Mais attention, ils se réfugient parce que, si vous voulez, ils sont attirés par des imams qui prêchent, si vous voulez, la mauvaise parole. Ça se fait, c'est comme ça se passe ici aussi en France, partout ailleurs dans le monde. Et effectivement, les autorités saoudiennes sont très vigilantes par rapport à ça, par rapport à des religieux aussi qui essaient d'accompagner ces jeunes qui dérivent. Parce que vous savez, la crainte pour les autorités, c'est que ces jeunes qui sont partis faire le djihad en Syrie, entre autres, ou en Irak, eh bien, ce sont des jeunes qui essaient de revenir pour créer le chaos. En Arabie. Et donc ça, c'est vraiment, ce sont des jeunes qui, c'est la crainte qu'ont les autorités pour la stabilité de la société. Donc, pour le coup, ils essaient d'organiser et d'accompagner donc, ces jeunes comme ils peuvent. Mais c'est vraiment un challenge hein, aujourd'hui. C'est vraiment très compliqué.
Clarence Rodriguez, vous écrivez beaucoup parce que d'abord, vous dites souvent qu'il fait très chaud hein, en Arabie Saoudite. Donc, on se réfugie dans la climatisation. Et donc, c'est vrai que c'est propice aussi à une forme d'activité intellectuelle. On veut vous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Facebook, sur votre page Facebook en direct de Riyad. Sur votre fil Twitter, c'est @ClarenceArabi. C'est bien ça, on appréciera le jeu de mots. Voilà. Dans un pays où il n'y a pas de liberté de la presse, c'est compliqué pour vous de sentir les limites?
C'est-à-dire que ce sont mes propres limites que je m'impose. Je pense que comment vous dire, j'écris comme je pense. Alors parfois, je me dis, il faut faire attention, etc. Mais vous savez, je voudrais revenir sur cette anecdote. La princesse Adila, quand je lui ai remis mon livre, parce qu'elle fait partie des héroïnes de mon livre, je lui ai dit, alors, il y a des choses qui se passent, etc. Elle me dit, mais vous savez, Clarence, si vous aviez écrit votre livre, s'il avait été trop rose, too pink, eh bien, vous n'auriez pas été crédible. C'est-à-dire que je suis journaliste avant tout, je suis une femme aussi, et que tant que je peux écrire et dire les choses, eh bien, je les dirai. Mais c'est pas.
Vous êtes aussi soutenue par certains voiles en haut lieu, finalement.
Mais je n'ai pas.
C'est ce que je décode dans ce que vous
dites. Mais moi, je vais vous dire franchement, encore une fois, et j'insiste, je n'appartiens à personne et je suis libre, si vous voulez, dans ma tête. Et ça, en revanche, ma liberté de penser, personne ne la prendra.
Merci en tout cas beaucoup d'être passée par le studio des 7 milliards de voisins, Clarence Rodriguez. On peut retrouver votre livre qui a été publié déjà quelques temps, Révolution sous le voile aux éditions First. Et puis, bien sûr, vous lire aussi sur les réseaux sociaux, hashtag @ClarenceArabi et puis la page Facebook en direct de Riyad. Merci beaucoup.
Merci à vous, Emmanuel.
Dans quelques instants, une toute petite histoire de l'humanité, mais alors ailleurs, Malik, qui a effectué toute sa scolarité au Burkina Faso, grâce à la solidarité d'un jeune Espagnol qu'il n'avait jamais revu jusqu'à cet été. Vous en saurez plus juste après Live in the Moment. Elle est du Bahreïn. C'est l'histoire d'une amitié maintenant, celle de Malik et Josep. Malik est burkinabé, Josep est espagnol, catalan. Tout commence en 1995. Josep, qui a alors la trentaine, est en vacances à Ouagadougou. Il rencontre Malik, 12 ans, déscolarisé. Spontanément, Josep décide de financer toute la scolarité de Malik pendant les 10 années qui suivent. L'été dernier, Malik, qui est désormais marié, avec un emploi au Burkina Faso, décide de se rendre à Barcelone pour rendre visite à son ami qu'il n'a plus jamais revu. Récit croisé au micro d'Alice Milo.
Je suis issu d'une famille polygame. Le papa, il a 4 femmes et c'est chaque femme qui se débrouille avec ses enfants. Et quand j'ai eu mon CEP certificat primaire, mon papa a dit que, écoute, nous, on ne peut plus te payer la scolarité, il va falloir que tu te débrouilles. Il ne travaille pas, mon papa.
Et pourquoi il ne travaillait pas?
Il était d'un certain âge. Quand moi, je venais au monde, mon vieux, il avait plus de 50 ans déjà. Je suis pratiquement le dernier du papa, en fait. Je suis arrêté d'aller à l'école après le CEP.
Donc, vous aviez quel âge?
Je devais avoir 13 ans. Et le public, en son temps, entre griffes, comme on dit chez nous, il faut connaître quelqu'un pour te permettre l'accès.
Entre guillemets,
hein? Oui, entre guillemets, comme on le dit, quoi. Parce qu'il n'y a pas assez de place pour tous les élèves. Dès lors, on m'a dit, il faut que tu cherches un travail. Le petit commerce au grand marché de Ouagadougou, j'ai commencé là-bas à vendre des sachets plastiques de 10 francs, 10 francs, 25 francs, 25 francs. Mais l'envie d'aller toujours à l'école était toujours dans ma tête. Jusqu'à ce que je rencontre Joseph, qui venait au Burkina pour la première fois. Je n'ai jamais oublié cette scène. C'est ce jour que ma vie a complètement changé, quoi. On a vu arriver un groupe de 3 Espagnols et ils nous ont demandé un endroit pour aller manger. On dit, ok, si c'est ça, on les accompagne, nous tous. Et ils ont dit, ok, allons-y manger ensemble. Dans le lot de petits gosses où on était pratiquement 5 ou 6 comme ça, j'étais le seul à bien parler français également parce que c'est moi, j'ai fait l'école jusqu'au CEP. Joseph et moi, on a commencé à causer. Il me demande, mais qu'est-ce que tu fais au marché ici? Vous n'allez pas à l'école? J'ai essayé d'expliquer où je viens, comment ça se passe, et puis pourquoi je suis là aujourd'hui. Et il m'a demandé s'il me paie la scolarité, est-ce que je vais repartir à l'école? Je n'ai pas hésité un instant, j'ai dit oui, si tu me payes l'école, bien sûr que je retourne. Il a d'abord fait mon inscription. On a d'abord été dans un lycée privé, très connu et réputé, qui s'appelait le Newton. C'est moi qui ai choisi l'établissement scolaire. J'ai pris le meilleur surtout. J'ai dit que c'est un blanc, il a l'argent, sûrement un blanc.
Vous savez combien ça a coûté la scolarité chaque année là-bas?
100 000 francs CFA.
Donc ce qui fait à peu près 60 euros.
C'était énorme pour le Burkinabé. Lui, il avait fait un premier versement pour toute l'année.
Et puis il est parti?
Et puis il est parti en fait. Il m'a payé les fournitures scolaires, il m'a payé un vélo. Quand j'ai repris l'école, j'ai fait 3 mois, 4 mois comme ça. Mais une chose est qu'on t'inscrive à l'école. Mais aussi, il faut que tu vives, il faut que tu puisses avoir à manger pour aller à l'école. Donc, mes parents m'ont fait comprendre, tu reprends l'école, mais il faut que tu continues ton marché parallèlement pour pouvoir survivre. Tu sais bien qu'à la maison, ce n'est pas évident. Tu n'auras pas à manger tout le temps. Et je reprends le marché les week-ends.
Donc, il n'y avait jamais de repos. École la semaine, travail le week-end.
Travail le week-end, en fait. C'est très compliqué parce que les jours normalement où tu dois faire tes devoirs, tu dois apprendre, il faut consacrer ça à marcher en fait. J'ai écrit une lettre à Joseph. Et de la 6e jusqu'en 3e, chaque mois il m'envoyait minimum 50 euros. Voilà, ça faisait vivre la famille, la maman surtout. Il m'a même inscrit à des colonies de vacances. Il m'a supporté jusqu'à l'université, au moins pendant 8-9 ans.
À l'époque, je voyageais pas mal. Ça m'arrivait des fois de quitter des villes, de quitter des endroits. Nantes ou ailleurs. T'as des garçons, t'as des filles dans les rues comme ça, tu vois comme ils sont traités et tout. Et tu te dis, mais ça me faisait mal au cœur. Et je me disais, t'aurais peut-être pu faire quelque chose, mais quoi et surtout comment? Je me suis dit, voilà, peut-être le moment est arrivé. Tu voulais pas faire quelque chose? Fais-le.
Quelle satisfaction vous en tiriez, vous, de ça?
Énorme. Peut-être qu'il y avait un peu d'égoïsme de mon côté, là. Ça me faisait du bien. Pourquoi pas le faire? Et puis aussi, c'était facile pour moi. Je n'étais pas en train de faire un effort énorme. L'argent que je lui envoyais, moi, je le dépensais un soir au restaurant. Et donc, le petit est devenu un homme. Et puis, il vient se marier il y a 3 mois. Donc, voilà, ça s'est plutôt bien passé.
Je ne sais pas ce que je peux lui dire, si ce n'est lui dire merci.
Comment il pouvait avoir la certitude que vous alliez bien à l'école et que cet argent était utilisé pour votre scolarité?
À chaque fois qu'il y avait des bulletins scolaires, je l'envoyais. Ce qu'il me demandait juste, c'était, il faut avoir des résultats scolaires. Vous savez, chez moi, en famille, même mes frères, ma maman, Joseph, on l'appelle ton papa. On dit, et ton papa blanc. En famille, les gens ont toujours vu ça comme une bénédiction divine, en fait. Si je peux venir à Paris aujourd'hui, c'est parce que les gens à l'ambassade, quand on me voit, je ne ressens pas à quelqu'un qui va venir faire l'immigré en Europe. C'est parce que j'ai eu la possibilité d'aller à l'école, d'avoir du boulot, en fait. Si je fais ce témoignage aujourd'hui, ça peut être un espoir pour d'autres jeunes. Ça peut aussi donner de la volonté à d'autres personnes d'aider, en fait. C'est aussi une façon de faire comprendre qu'on peut toujours aider, en fait.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Voilà, c'était un récit croisé au micro d'Alice Milo, de Malik et Joseph. Évidemment, je remercie toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néron, Romain Dubrac, qui ont préparé cette émission, réalisé cette émission. Demain, 7 milliards de voisins, nous nous intéresserons aux First Ladies, ou comment la place et le rôle des femmes de président américain a évolué au fil des années. On parlera d'Eleanor Roosevelt, de Jackie Kennedy, de Nancy Reagan, d'Hillary Clinton, bien sûr, de Michelle Obama. Notre invitée sera Nicole Bacharan. Et bien sûr, vous pouvez lui poser toutes vos questions, soit sur les réseaux sociaux ou tout simplement en nous appelant au 33 1 84 22 71 71. Nous avons aussi une adresse mail sur laquelle vous pouvez nous contacter, 7milliards@rfi.fr. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même endroit, dans quelques secondes. C'est le journal sur RFI.
RFI, la sélection.